Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h pendant une heure. Avec le docteur Jimmy Mohamed, nous tentons tous les jours de vous éclairer sur les sujets de santé qui vous préoccupent et on essaye de le faire toujours avec sérieux mais dans la bonne humeur. N'est-ce pas Jimmy? Je vois un grand sourire
mais
aujourd'hui.
Mais non, mais c'est très bien défini, ouais. C'est l'identité de l'émission.
On essaye, hein, c'est ça qu'on essaye de faire vraiment, je crois.
Hein, bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Très bien, allez, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la charge mentale des enfants. Et oui, celle subie par les femmes, les mères, on en parle de plus en plus. Mais malheureusement, elle ne leur est pas réservée. Les enfants la subissent aussi et sont soumis au stress quotidiennement. Et cela peut avoir un impact lourd sur leur développement. Pour en parler dans le détail, nous recevrons Aline Nativelli-Damou. Elle est psychologue clinicienne. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien, nous nous intéresserons à nos groupes sanguins. Savez-vous ce que signifient réellement les groupes A, B ou O? Que veut dire la notion de donneur ou receveur universel? Nous ferons le point. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question de désir et de sexualité, avec le cancer bien sûr, quand la maladie bouleverse aussi la vie amoureuse.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on va commencer par la question de Naya qui a 26 ans et qui attend un petit bébé.
Bonjour Mélanie et Jimmy, je vous appelle aujourd'hui parce que en fait je suis enceinte et la sage-femme que je vais voir m'a demandé de venir la voir toutes les 3 semaines. Je trouve que c'est beaucoup, est-ce que c'est normal? Voilà, merci beaucoup et bonne émission.
Jimmy, cette question de Naya avec donc sa sage-femme qui veut la voir toutes les 3 semaines, dit-elle. Rappelons que donc le suivi dans les grossesses non pathologiques, il peut tout à fait être fait par une sage-femme parce que c'est vrai que j'ai fait suivre mes grossesses par des gynécos, mais la sage-femme est tout à fait à même de faire ce suivi quand tout est normal. Hein.
Oui, vous avez raison, vous avez quasiment tout dit. La sage-femme s'occupe du suivi de grossesse normal de la femme enceinte du début jusqu'à la fin, même si en général, vers le 8e mois, elle vous demande de vous inscrire, enfin d'aller à la maternité pour que la sage-femme de l'hôpital puisse récupérer le dossier, faire la consultation d'anesthésie. Mais évidemment, lorsque la grossesse se passe bien, lorsqu'il n'y a pas de pathologie, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'être suivi par un gynécologue. Certains médecins généralistes font aussi le suivi normal, mais la sage-femme, elle est plus que compétente et c'est d'ailleurs son rôle.
Pourquoi elle parle donc de 3 semaines? Moi, j'avais l'impression que c'était une fois, 3 semaines, 4 semaines. J'avais l'impression que c'était plutôt tous les mois, toutes les 3 semaines. C'est pas un peu intense comme contrôle?
Non, à mon avis, c'est plutôt tous les mois qu'elle lui demande, puisque c'est ce qu'on demande aux femmes, c'est de venir tous les mois en fait. Il y a des bilans aussi à faire régulièrement. À ce moment-là, lors de la consultation, on récupère les examens pour vérifier que tout va bien, notamment
faire des prises de sang,
notamment la toxoplasmose qu'on fait, la sérologie. Lorsque vous êtes négative, on vérifie qu'elle ne devient pas positive, que vous avez peut-être développé l'infection. Et puis, elle vous examine, elle prend le poids, elle vérifie votre tension. Elle mesure ce qu'on appelle la hauteur utérine.
Ah oui, c'est vrai, entre le nombril et le pubis, hein,
oui,
c'est ça.
Ça vous rappelle quelques souvenirs. Oui, c'est vrai. On fait une petite bandelette urinaire pour vérifier qu'il n'y ait pas de protéines ou du sucre dans les urines. On vérifie qu'il n'y ait pas de contraction. On fait aussi un interrogatoire pour savoir est-ce que ça se passe bien avec le conjoint. C'est des choses toutes bêtes, mais parfois les violences sont révélées pendant la grossesse. Et donc c'est ce suivi qu'elle fait tout au long, tous les mois, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'au moment où on doit accoucher.
Très bien. Et cette prise en charge par la sage-femme, est-ce qu'elle est faite de la même façon par l'assurance maladie? Je veux dire, c'est pris en charge de la même manière.
Tous les examens liés à la grossesse, que ce soit les consultations, les échographies, sont pris en charge à 100%. Et à partir du 6e mois, tous les examens, quels qu'ils soient, vous allez chez le dentiste, vous allez voir le cardiologue, eh bien, sont remboursés et surtout dispensés d'avance de frais à partir de 6 mois. Donc oui, la sage-femme donc, ne pratique pas de dépassement d'honoraires pendant la grossesse, même d'ailleurs tout court. Et donc finalement, c'est plutôt pas mal pour les femmes qui doivent être suivies.
Très bien. Et il y a même certaines sages-femmes qui proposent des cours, alors que ça peut être en milieu hospitalier, mais même en libéral, des cours de préparation à l'accouchement, alors surtout quand c'est le premier enfant. C'est important d'y participer selon vous?
Oui, déjà, il y a un entretien prénatal qu'on peut faire à n'importe quel moment pendant la grossesse. Et puis, vous avez 7 cours de préparation à l'accouchement et suivi pour la naissance du bébé, qu'on peut faire plutôt vers la fin. On vous explique comment va se passer l'accouchement, qu'est-ce que c'est que des contractions, quand est-ce qu'il faut se rendre à la maternité.
Parler allaitement aussi.
Parler allaitement pour la suite. Vous expliquez ce que c'est qu'une césarienne, s'il faut en avoir une, l'épisiotomie, vous dire que vous allez peut-être avoir une péridurale ou pas. Donc tous ces éléments pour vous apprendre à accoucher. On vous apprendra aussi à gérer votre douleur et le souffle.
Le jour J, parfois on ne se rappelle plus de rien, mais c'est pas
vrai,
grave.
C'est un peu. Mais au moins, si vous avez quelques notions, c'est rassurant et c'est pris en charge à 100%. Parfois, on le faisait en milieu collectif avec plein d'autres mamans, notamment à l'hôpital, ça c'est plus trop possible avec le Covid, donc l'entretien est individuel. Je vous conseille de le faire quand on a le temps, parce que ça vous permet d'apprendre plein de choses.
Merci beaucoup Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur, cette fois c'est celle de Pascal, 31 ans. Il vit à Angoulême, Pascal, on l'écoute.
Bonjour, bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question. J'ai une verrue sur la main. Est-ce que ça peut partir tout seul ou est-ce qu'il faut forcément la faire brûler? Voilà, merci pour votre réponse.
Merci Pascal pour votre question. Alors Jimmy, les verrues, alors on va parler peut-être juste généralement, c'est quoi finalement une verrue? C'est un virus, quoi?
Exactement, c'est causé par un virus qui va pénétrer souvent lors de micro-fissures au niveau cutané, du coup le virus va se développer. C'est souvent un HPV, le papillomavirus, qui va donner ça, et puis ça va donner une excroissance qui peut être localisée à différents endroits
alors,
du corps.
Alors lui dit la main, c'est bénin en général, c'est pas quelque chose de grave?
C'est plutôt bénin, il y a plusieurs
types
de virus, planes, vulgaires, qui auront différentes couleurs. Alors, la plus fréquente, elle aura une excroissance qui va être gris-jaune avec une petite surface poreuse, pas très jolie, comme celle que vous m'avez montrée d'ailleurs hier. Mais le secret médical m'empêche d'en dire plus.
Bien sûr, bien sûr.
Parfois, elle a une couleur qui est proche de la peau. Et puis enfin, parfois, on peut aussi avoir des verrues génitales. Attention, c'est des condylomes. Et là, c'est une infection sexuellement transmissible. Et l'ensemble de ces verrues sont liées à l'HPV.
Est-ce qu'il faut, donc on va répondre à la question de Pascal, est-ce qu'il faut absolument consulter un dermato ou est-ce que ça peut passer tout seul, une verrue?
Non, ça passe le plus souvent tout seul. Il faut du temps, par contre. Il faut quelques mois, jusqu'à 1 ou 2 ans avant que la verrue parte. Alors, on peut l'enlever dans plusieurs
comme
situations.
Comme la verrue plantaire que vous aviez eue qui avait duré 3-4 ans.
C'est ça. Exactement. Ouais. Vous connaissez bien mon passé médical. Mais tout ça se paiera, Madame Gomez, vous verrez. En tout cas, ça part tout seul.
Bon, en tout cas, si c'est esthétique ou
alors,
si ça gêne.
Il peut y avoir plusieurs choses. Ouais. Un préjudice esthétique, c'est moche, vous voulez l'enlever. Ou si c'est douloureux, lorsque c'est au niveau plantaire,
pied,
ça peut être douloureux. Si vraiment vous en avez beaucoup, et là, direction le dermatologue.
Qui va brûler tout ça et ça va partir. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Pascal, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous Aline Nativalidamou, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Alors vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans le domaine de l'enfance, de l'adolescence et de la famille et surtout l'auteur du livre « La charge mentale des enfants quand nos exigences les épuisent » aux éditions Larousse. Alors disons ce qui est, la charge mentale des femmes, des mères, elle est souvent dénoncée, depuis quelques années on en parle beaucoup, mais elle leur est malheureusement pas réservée à ces femmes, à ces mères. Ça veut dire quoi chez les enfants? Est-ce que c'est exactement, je sais pas, la même définition, la charge mentale, c'est la même chose?
Alors on retrouve effectivement les mêmes termes dans la définition de la charge mentale chez l'enfant. Ce qui va différer, c'est dans les domaines, c'est-à-dire c'est plutôt sur les savoir-être et savoir-faire qu'on attend de l'enfant au niveau des exigences, du perfectionnisme et surtout aussi de la réussite. Donc en fait, il y a des domaines bien particuliers qui vont toucher la vie de l'enfant. C'est à la fois l'enfant idéalisé par ses adultes de référence, donc ce qu'on attend de lui en tant que parent, sa place dans la famille aussi, qu'est-ce qu'il représente dans cette famille pour toute la famille, les membres de la famille. L'autre point important, c'est son statut d'écolier qui va jouer énormément. Et la question aussi du genre, c'est-à-dire qu'il va y avoir certaines formes de pression. On va vouloir qu'il corresponde à certaines cases en fonction que tu es une petite fille ou un petit garçon.
Donc chez les enfants, les raisons de la charge mentale sont peut-être différentes, on vient de le comprendre, mais le constat final, en tout cas, il est le même, je crois, c'est de l'épuisement, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait, c'est un épuisement généralisé, donc c'est vraiment une fatigue chronique qui va s'installer sur tous les champs cognitifs, émotionnels, psychologiques et comportementaux de l'enfant. Donc ce sont des enfants qui arrivent extrêmement épuisés, mais qui le masquent, puisqu'ils mettent en place des stratégies comportementales, parce que leur objectif, c'est de faire plaisir aux adultes.
De montrer à quel point ils sont parfaits.
C'est ça, et autonomes aussi. Ça, c'est quelque chose de très important chez l'enfant, de montrer qu'il est grand.
Jimmy ?
C'est un phénomène qui est récent, ou finalement, ça a toujours existé, et on ne s'y intéresse que maintenant, puisque ce que vous dites, c'est que l'enfant, ce serait quasiment un métier.
Aujourd'hui, oui.
Oui, c'est ça. Moi, c'est un constat que je fais depuis 3-4 ans dans ma pratique en libéral, où c'est devenu un vrai métier de grand, avec une espèce de fiche de poste, avec des obligations, des objectifs à remplir, et surtout des évaluations. C'est-à-dire... Les enfants d'aujourd'hui ont l'impression d'être toujours évalués sur ce qu'ils sont capables de faire, de donner et de mettre en place dans leur vie d'enfant au quotidien.
Oui.
Donc ça ressort beaucoup dans la bouche des enfants, dans leur discours. Je pense que ça a toujours existé. Alors, on n'a pas mis la notion de charge mentale dessus. On a beaucoup parlé du stress chez l'enfant. Il y a aussi le phénomène de parentification. C'est-à-dire que c'est un enfant parentifié qui va effectivement tout faire pour satisfaire les besoins des adultes.
Ah bon ?
Donc surtout ses figures d'attachement et de référence, en oubliant les siens. Parce que son objectif, c'est d'être aimé et aimable. Et c'est ça qui le rassure énormément.
Et cette charge mentale, elle concerne des enfants de quel âge? Qu'est-ce que vous décrivez là, en fait, ce dont on parle depuis le début de cette émission? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge en particulier? D'ailleurs, est-ce que c'est plus les petites filles, comme on parlait des mères et des femmes, ou est-ce que ça touche les deux sexes, pour le coup?
Alors, au niveau de la tranche d'âge, je pense qu'il y a quelque chose qui se relève d'un peu plus fort, l'entrée à l'école, donc surtout À 6 ans, au CPE, parce qu'il y a effectivement cette envie de réussite.
C'est là qu'on devient un élève véritablement, peut-être, dans la tête de l'enfant aussi.
Le statut vraiment d'écolier qui fait qu'il va falloir apprendre, rester assis aussi, écouter l'enseignant, se faire des copains. Il n'y a pas les mêmes enjeux que la maternelle, quoique quand même dans la maternelle, il y a quand même beaucoup de parents qui ont de plus en plus de connaissances sur le stade de développement des enfants et qui peuvent aussi avoir une petite pression. Tiens, mon enfant, à 18 mois, il ne fait pas ceci. À 2 ans
et demi. À 3 ans et demi, tu sauras lire.
Voilà. Ça, c'est des choses que j'entends beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de parents qui sont dans une demande de coaching parental, de guidance parentale et qui sont très au clair sur toutes les connaissances, la vulgarisation des connaissances et qui veulent absolument que leur enfant rentre dans toutes les cases à 18 mois.
Ils ont déjà une idée très précise de ce qu'il doit devenir et ce qu'il doit être.
Ouais, c'est surtout ça. Jimmy.
Quelle est la frontière entre l'éducation et finalement ce qui va conduire à la charge mentale des enfants? Par exemple, si on leur demande systématiquement de débarrasser la table ou d'éteindre la lumière des toilettes.
Parce que c'est ce qu'ils demandent à ses fils tous les soirs.
Non, mais c'est vrai, ou même de se dire
que je leur ai mis la pression.
Ah oui, non, mais est-ce que tu as tiré la chasse d'eau? Est-ce que tu as éteint la lumière? Est-ce que tu t'es lavé les mains? Est-ce que l'éducation.
Que ça, c'est normal quand même.
Ça reste normal. Ou est-ce que ça aussi, c'est leur mettre une pression de dire oh là là, t'as pas tiré la chasse d'eau parce que. Moi, j'engueule mon fils s'il ne tire pas la chasse d'eau parce que, un, ça sent mauvais et deux, ça fait partie de l'éducation. On veut leur apprendre finalement à devenir des adultes.
En fait, il y a effectivement toutes les normes, les apprentissages, les règles qui vont les aider dans la vie, dans la société et puis surtout pour le bien-être de soi et des autres.
Ça, c'est les règles, c'est pas la charge, c'est les règles.
C'est
de
des
la
règles.
Vie.
Après, c'est plutôt le côté répétitif, c'est plutôt aussi les 12 violences éducatives, un petit peu, où on va un petit peu s'acharner ou surtout aussi sur ce qu'on projette sur notre enfant. C'est plutôt dans les savoir-être et savoir-faire sur je veux que mon enfant sache faire telle ou telle chose, je veux absolument que. Bien sûr, ils ont besoin du côté éducatif, des règles, parce que ça va les aider, puis ça leur apprend des valeurs aussi.
Je veux que mon gosse sache jouer aux échecs, connaisse toutes les étapes de multiplication dès le CP.
C'est ça, c'est plutôt ça. C'est plutôt la charge mentale, elle va aussi arriver là par rapport à toutes les attentes qui ne correspondent pas forcément à leur âge de développement. Est-ce qu'ils sont aussi capables de mettre en place un instant T dans leur développement?
Ou même, par exemple, leur imposer un sport, c'est le moment de la rentrée, on va décider des activités. Donc, si nous, on décide, tiens, cette année, tu vas faire du judo, et s'il ne l'a pas envie, ça fait partie de la charge mentale?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, l'enfant va, entre guillemets, essayer de vous faire plaisir, ou soit il va clairement vous signifier qu'il n'a pas envie, mais il va essayer parce qu'il sent que c'est important pour vous, et que vous voulez peut-être lui transmettre une passion que vous avez, ce qui arrive souvent, sauf que généralement, au bout de 2 ou 3 mois, l'enfant va mettre en place des stratégies pour éviter le
j'ai
judo.
J'ai mal au ventre aujourd'hui, je ne vais pas y aller.
Il va psychosomatiser, ça c'est quelque chose qui fonctionne bien, où il ne va pas se sentir entendu par son parent. Donc ça peut générer aussi beaucoup de tristesse et de colère. Je dis toujours en parents, c'est bien d'encourager, mais il y a la fameuse limite d'imposer quelque chose.
Alors, pour déculpabiliser quand même tout de suite, peut-être les parents qui nous écoutent, voire même les grands-parents, si on pense avoir un enfant qui souffre peut-être d'une charge mentale importante, c'est pas forcément parce qu'on est un mauvais parent, un parent maltraitant, d'accord? Vous allez me dire si j'ai raison. Hein. Oui. D'ailleurs, vous dites, je crois, dans votre livre, il n'y a pas de parents ni d'enfants parfaits.
C'est ça, parce que moi, je rencontre beaucoup de parents qui ne savent même plus, qui souvent se posent la question, c'est quoi être un bon parent aujourd'hui? Avec les nouvelles vagues de parentalité, ils entendent beaucoup de choses, ils lisent plein de choses, ils participent à des conférences, des ateliers. Ils ont envie de bien faire. Et quelquefois, l'envie de bien faire amène aussi beaucoup de charges mentales dans leur parentalité à eux.
Oui, on se met une pression folle pour faire tout bien, c'est ça.
Et ce qui fait que ça rebondit sur l'enfant parce que lui, il sent bien que c'est important pour papa, maman, mamie ou même pour mon enseignant que je réussisse bien telle ou telle chose. Mais il y a aussi cette notion de performance qui n'était peut-être pas autant présente avant avec effectivement les angoisses des parents sur la projection face à l'avenir. Les crises sanitaires, les crises économiques, écologiques, où ça amène beaucoup de parents qui sont en stress.
Dans l'actualité, il y a des choses très anxiogènes en plus. Voilà. Donc tout ça n'aide pas pour ces petits bouts. Jimmy.
Du coup, pour commencer à gérer le stress des parents, mais aussi du coup celui des enfants, ça commence par quoi? Lâcher prise, être un peu plus dans la bienveillance, une forme de respect mutuel tous ensemble?
Tout à fait. C'est vraiment à lâcher prise, prendre du recul sur sa parentalité, sur l'enfant qu'on a en face de soi. Et pas celui qu'on idéalise, qu'on fantasme, qu'on aimerait avoir. Je dis toujours aux parents, c'est qu'un tout petit bout de vous, il a déjà son tempérament, il va développer sa personnalité. Encouragez-le, accompagnez-le. Bien sûr, vous avez envie de lui transmettre certaines choses, mais essayez d'adapter toujours en fonction de ce que votre enfant désire, aime et a besoin.
Est-ce qu'il est lui-même aussi
Tout à fait.
Une vraie personnalité en devenir.
Tout à fait.
Il faut laisser s'épanouir.
C'est super important. Oui. Et ça, il y a beaucoup d'enfants justement qui le pointent, qu'on ne les laisse pas lire ce qu'ils ont envie de lire, regarder ce qu'ils ont envie de faire, même les activités, qu'on leur impose beaucoup de choses. Mais comme ce ne sont que des enfants, ils n'ont pas leur mot à dire.
Aline, quand vous voyez des familles qui viennent dans votre cabinet, alors j'imagine que les parents ne viennent pas d'eux-mêmes parce qu'ils se disent, tiens, mon enfant souffre de charge mentale, ils arrivent avec un enfant, je ne sais pas, anxieux, qui pleure, qui est hyperactif. Oui. Vous mettez le nez assez vite dessus sur cette pression que les enfants peuvent subir. Et comment vous expliquez aux parents, bah, vous lui faites subir une charge mentale trop importante. Alors, c'est pas facile, ça.
En fait, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est la loyauté envers la famille, les parents. Donc, il faut amener l'enfant à pouvoir dire des choses sur ce qu'il vit dans son quotidien. Beaucoup d'enfants sont assez réfractaires de dire « Ah, c'est la faute de papa, c'est la faute de maman ». Après, tout dépend de l'âge aussi, ça c'est important.
Les ados, en général,
les
tout va bien.
Les pré-ados, les ados, ça va. Les plus jeunes ont un peu plus de mal. Donc là, il faut passer par le dessin, il faut passer par du jeu, où là, effectivement, ils vont projeter leur vécu. Et puis, moi, j'utilise Léon le Lémurien, qui, effectivement, lui, me permet... Les enfants aiment bien projeter sur les animaux.
Ces petits personnages, toute la famille de Lémurien. C'est et vous le dites, Léon, il s'identifie à Léon qui est le petit enfant dans la famille. C'est et ça. Le papa, la maman. Et ça permet de, via de Léon, de savoir ce que ressent l'enfant.
Les liens, etc.
Mmh. Aline, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, donc, le docteur Jimmy Mohamed, évidemment, et notre invité, c'est vous, Aline Nativelle-Idamou. Vous êtes responsable, psychologue clinicienne et l'auteur du livre La charge mentale des enfants, quand nos exigences les épuisent, aux éditions Larousse. Alors, pour nous aider à comprendre précisément ce que ça veut dire, cette charge mentale d'un enfant, on a un petit peu expliqué le concept tout à l'heure, mais je vous propose quand même de nous raconter peut-être l'histoire du petit Jules. Le petit Jules, il avait 6 ans, enfin il a 6 ans dans votre livre. Vous racontez cet exemple typique au tout début du bouquin. Racontez-nous l'histoire de Jules pour bien comprendre ce que c'est.
Jules, effectivement, c'est un enfant qui est surstimulé au niveau cognitif par rapport aux exigences de ses parents, sur une projection en lien avec une future profession. Alors, il a 6 ans, il multiplie les cours de langue, les cours de musique.
Alors là, la langue, pour bien comprendre, il fait du japonais, il fait de l'anglais, il fait, quand il vient en consultation, de l'arabe. Ça fait quand même déjà 3 langues plus le français, hein, puisqu'il a 6 ans, donc il rentre au CP.
C'est 3 de plus que nous, hein, déjà.
C'est ça. Voilà, c'est ça.
Et c'est pas tout. Il fait des musiciens, je crois,
oui,
aussi.
Oui, hein. Tout à fait. Mmh. Et ça s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il est toujours occupé du lundi au dimanche. C'est un enfant qui arrive en consultation, moi je l'autorise à dormir, par exemple.
Dans votre cabinet,
oui. il s'allonge pendant 20 minutes. On a fait un petit compromis quand même, parce qu'il faut qu'on arrive à travailler aussi un petit peu ce qu'il vit. Mais effectivement, et c'est quelque chose qu'il m'a dit, ne dis pas à mes parents que j'ai besoin de dormir.
Oh là là.
Donc ça, c'est quelque chose de très important. Hein. La chose importante dans l'épuisement, parce qu'on parle d'épuisement, ce sont vraiment des enfants qui vont aussi se cacher pour dormir et qui vont masquer à leurs adultes justement cet épuisement-là, parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils ont l'impression de ne pas avoir le droit de s'ennuyer. De se reposer, parce qu'il faut toujours être dans l'agir, dans l'actif.
Alors Jules, c'est peut-être un exemple quand même vraiment extrême, mais j'imagine qu'on peut arriver à de la charge mentale, avec même peut-être des fois moins d'activité que ça. Je ne sais pas, Jimmy, combien ils font de sport et compagnie, vos enfants ?
Bah, ils en font un ou deux, mais c'est du plaisir vraiment. Mais d'ailleurs, s'ils sont mauvais, par exemple, dans un sport, mais qu'ils veulent en faire, c'est une vraie question, est-ce qu'on leur dit ou on leur dit « bah non, c'est cruel de dire ça », mais parfois, parents, effectivement, on projette. Et on dit, bah non, tu vas pas faire ce soir parce que tu es mauvais. Est-ce que c'est une mauvaise chose, je suppose ?
Ouais, je pense que oui. Là. Moi, je peux presque vous
Alors, mauvais, ce sera peut-être pas le terme, mais en tout cas, lui dire, en tout cas, essayer de l'encourager. Alors après, je sais pas ce que ça veut dire mauvais. On peut toujours plus ou moins s'améliorer, mais.
On fait ça pour s'amuser, non ?
Mais quand on est parent, on voit si l'enfant est mauvais ou pas.
Ouais, alors lui,
sport,
typiquement, à mon avis, c'est un petit garçon au foot qui marque jamais de but.
Non, il joue pas au foot, non, parce que ça l'intéressait pas. Mais bon, mais on le laisse faire.
Je pense qu'il faut le laisser faire pour qu'il se rende compte par lui-même.
Que c'est pas pour
là,
lui.
Ça serait un peu moins, en tout cas, plus facile à gérer pour lui.
Mais du coup, quand vous parlez d'épuisement, parce que on a du mal à comprendre, chez un enfant, comment est-ce qu'on voit qu'un enfant est épuisé ? Parce que là, vous dites qu'il se cache pour dormir.
Pour dormir.
Mais
oui,
nous,
ça,
est-ce qu'il y a des symptômes, enfin, en tout cas, des signes qui peuvent alarmer les parents ?
Oui. Alors moi, je dis toujours, ce sont des enfants, par exemple, qui ne jouent plus, qui sont toujours dans une recherche active cognitive, c'est-à-dire qu'ils vont multiplier les lectures, demander des devoirs supplémentaires. Qui vont être en recherche d'activité.
Les enfants sont tranquilles, du coup, mieux. Ça va aller.
Qui vont vraiment, ça va être des mini-adultes, en fait. Ils vont avoir du mal à jouer avec les autres enfants parce qu'ils n'ont plus cette légèreté, cette insouciance. Et ils vont avoir malheureusement tendance à s'épuiser puisqu'ils mettent en place des stratégies pour pas montrer qu'ils sont fatigués.
C'est quoi ces stratégies ? Alors comment un enfant, il met ses stratégies ? J'ai l'impression que je verrais si mon enfant était fatigué, mais c'est quoi les stratégies ?
Alors, il y a plusieurs... Ça, c'est les confidences des enfants que je reçois à mon cabinet. Hein. Il y en a qui boivent des boissons énergisantes, bien sûr. Il y en a qui se mettent quelquefois aussi à fumer en cachette. Qui vont regarder sur Internet comment on fait pour tenir.
Si petit déjà, vers 10 ans, 11 ans, ouais.
9-10 ans, ça commence déjà quand même, qui vont essayer de trouver des moments où les parents sont occupés, où les adultes de référence sont occupés pour aller s'assoupir aux toilettes, par exemple, pendant l'école.
Ça, vous avez des patients comme ça qui vous ont raconté ça dans votre cabinet?
Oui.
Ah ouais, c'est de la folie, ça vous étonne, Jimmy?
Je suis coaché, honnêtement, c'est vrai qu'on, c'est l'envers du décor en fait, hein. Les enfants, ils sont très résistants, mais est-ce que du coup, avec ce que vous décrivez, ça peut avoir un retentissement sur leur santé physique au-delà de la santé mentale, puisque du coup, je suppose qu'ils mangent peut-être un peu moins, ils sont peut-être moins en forme?
Tout à fait, alors moi je suis toujours en lien, parce que je préconise toujours un bilan de santé pour l'enfant, donc le pédiatre ou le médecin de famille, pour qu'il puisse y avoir effectivement cette expertise médicale. Souvent on repère les troubles d'alimentation. Ce sont plutôt des enfants qui ont tendance à moins manger, parce qu'il y a plus plaisir aussi à manger, et puis que forcément manger ça prend du temps. En fait, ils ont une gestion du temps. Il faut que ça soit quelque chose de rentable, petit peu dans leur tête.
C'est des petits adultes en fait.
C'est ça, tout à fait. C'est pour ça qu'on parle. Je parle souvent d'un vrai métier de grand. Après, vous avez quelques médecins m'ont signifié des troubles de la croissance.
Une croissance qui va se stopper, par exemple.
C'est parce qui va être ralenti parce qu'il va y avoir forcément le cortisol, l'hormone du stress, qui va plus ou moins inonder le corps et qui va dérégler l'homéostasie globale chez l'enfant. Les troubles du sommeil. Bien sûr. Ça, c'est 99%. Ils ont quasi tous des troubles du sommeil.
Et puis des choses qui vont peut-être somatiser. J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Ça, c'est important, je crois. Ça revient souvent. Hein.
Ça revient très souvent. La tête, le ventre.
Les enfants qui se plaignent tout le temps comme ça.
Ils se plaignent pas, en fait. Ils vont vraiment attendre. Ils ont un degré de résistance. C'est-à-dire que. Parce qu'ils ont compris, pour certains, ils ont l'impression qu'il faut être un vrai petit soldat. C'est pour ça que je parle du syndrome d'ourson d'eau, où effectivement, ils ont l'impression qu'ils ont une carapace et qu'ils attendent vraiment un seuil vraiment important de douleur pour réagir.
Jimmy ?
Ce que vous dites, on a l'impression que ça peut les conduire à la dépression. Oui. Est-ce que vous avez du coup des enfants qui sont déprimés, ou même pire, peut-être qu'ils font des tentatives de suicide en fait, chez les enfants ?
Tout à fait. Alors ça, c'est un sujet extrêmement tabou, le trouble dépressif et les idées suicidaires chez les enfants et les pré-ados, parce que souvent on associe ça à l'adolescence. Mais moi, j'ai quand même, maintenant même en cabinet, des parents qui arrivent avec le motif « mon enfant a des idées suicidaires ».
À quel âge ?
Le dernier, à 8 ans, par exemple.
Et c'est un enfant, par exemple, qui sent évidemment le secret sur cet enfant, mais c'est des enfants qui ont une charge mentale très lourde.
Tout à fait. Ouais. Il y a effectivement ce syndrome de réussite par procuration du papa ou de la maman qui arrive souvent. Une pression aussi au niveau de la place dans la fratrie, très souvent. L'aîné, souvent c'est ce profil-là, qui on va lui donner beaucoup de missions. Après, tout dépend de la dynamique familiale, la dynamique environnementale, mais il n'y a pas de profil type garçon ou fille pour la charge mentale, c'est plutôt les répercussions de l'environnement global, l'accompagnant qu'on peut avoir au niveau de l'enfance de son propre enfant, même tous les adultes aussi qui l'accompagnent, qui peuvent avoir un impact.
Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Un enfant qui souffre, qui subit une charge mentale importante, on va essayer bien sûr de culpabiliser personne, mais c'est toujours la faute des parents ou il y a d'autres adultes, j'en sais rien, les grands-parents ou d'autres adultes référents qui peuvent être responsables de cette charge, de ce poids.
Alors, c'est pas que les parents. Moi, je parle souvent de famille élargie, même, de, comme vous l'avez dit, de figure de référence. Ça va plutôt être la multiplicité, en fait. Ça va dire le coach sportif qui en demande un petit peu trop, papa aussi qui en demande un petit peu trop, l'enseignant qui peut aussi à un moment donné. En fait, c'est vraiment différents adultes qui vont mettre une pression plus ou moins indirecte ou inconsciente sur l'enfant.
Bon, c'est pas la faute que des parents, heureusement.
Non. Jimmy.
Du coup, on comprend que c'est compliqué, mais du coup, est-ce que ça peut se régler tout seul ou est-ce qu'on est obligé de passer par une consultation? Et d'ailleurs, qui est-ce qu'on va voir dans ces cas-là?
Alors, le conseil, c'est d'aller voir un pédopsychiatre ou un psychologue ou un thérapeute familial, parce que là, il faut vraiment axer sur l'ensemble de la famille.
Il faut mettre tout à plat pour tout le monde. Hein,
c'est ça. Ça peut prendre du temps et surtout, c'est plutôt le travail avec les adultes de référence qui prend du temps parce que l'enfant, lui, bouge assez rapidement. Et c'est plutôt les adultes qui ont du mal à prendre conscience ou prendre du recul parce qu'ils sont quand même dans une forme de bienveillance. Je fais tout ça pour lui. Je n'ai pas eu forcément conscience que je lui ai fait du mal. Donc c'est plutôt souvent les adultes qui claquent la porte du cabinet.
Malheureusement.
Et on les revoit.
C'est dur de faire changer les adultes, alors surtout quand on les met en faute, entre guillemets, sur leur capacité parentale.
C'est pour ça que moi, je leur dis toujours, on est une équipe. Moi, je ne suis pas un juge. Je suis une espèce de luciole bienveillante qui va essayer de vous éclaircir.
Sur moi aussi, je suis une maman et je ne suis pas parfaite.
J'utilise quelquefois ma propre vie de maman sur des petits exemples un peu basiques. Moi, par exemple, je rêverais que ma fille n'aime pas les princesses et elle adore les princesses. Je lui ai acheté un costume de ninja, elle ne veut absolument pas le mettre. Voilà,
on a tous... Je vais le garder pour la mienne alors, parce qu'elle adore les costumes de ninja.
On est tous... Je leur dis, vous serez toujours forcément déçus par votre enfant. Maintenant, c'est à vous de gérer cette petite frustration. Parce qu'il n'est pas là pour uniquement vous faire plaisir. Ce n'est pas un fétiche.
Ouais. Voilà. Aline Nativelle, on va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, Aline Nativelle-Idamou. Vous êtes psychologue, clinicienne et l'auteur du livre « La charge mentale des enfants, quand nos exigences les épuisent » aux éditions Larousse. Alors Aline, à présent, on va tenter de donner, évidemment, maintenant qu'on a bien expliqué les choses, on va essayer de donner quelques conseils quand même aux adultes qui nous écoutent pour éviter d'en faire peser trop lourd sur les épaules des plus jeunes. D'abord, ce qu'il faut savoir, vous l'écrivez dans votre bouquin, c'est que des parents anxieux, ça fait généralement des enfants anxieux. Donc peut-être, parents, détendez-vous déjà.
Détendez-vous, vivez votre parentalité avec plus de recul, arrêtez un petit peu d'être dans un désir de perfection. Vous aussi, vous idéalisez un petit peu le parent que vous voudriez être et vous mettez souvent une pression et puis ça rejaillit sur votre enfant. Il faut relativiser au maximum et puis surtout, y a le couple parental, hein, parce qu'on parle souvent de la charge mentale des mamans. Il y a quand même certains papas maintenant avec qu'est-ce que c'est être un bon père aujourd'hui qui peuvent ressentir une espèce de pression aussi là-dessus. Donc on parle de coparentalité, donc il faut pas. Et puis il y a pas que les parents, il y a aussi la famille, les autres membres de la famille. Il y a aussi le coach. Il peut y avoir aussi les enseignants. Enfin, je veux dire, un enfant vit aussi en dehors de ses parents.
Vous avez raison, des bons pères et des pères très soucieux, il y en a beaucoup aujourd'hui. C'en est un, justement, Jimmy, allez-y.
Oui, et parfois on a des soucis, nous-mêmes, parents, et il faudrait peut-être aussi faire attention que ça ne déborde pas sur les enfants, d'éviter de projeter nos craintes et que les enfants n'apprennent pas des problèmes peut-être que nous, on a entre grands et que les enfants restent loin de tout ça parce qu'ils ont toujours une oreille qui traîne et qui écoute ce qui se passe.
Alors, c'est même plus que l'oreille, ils sont très réceptifs aux ambiances.
C'est-à-dire que j'en dis souvent.
C'est ça.
Hein,
ouais. Ils sont très réceptifs aux ambiances, aux non-dits, aux secrets. Donc, effectivement, il ne faut pas projeter ses propres problématiques d'adultes. C'est souvent compliqué parce qu'on vit ensemble. Et puis, ils perçoivent, les enfants, beaucoup de choses. Hein.
Les enfants, ils ne sont jamais aussi attentifs que quand on se met à chuchoter entre adultes. Là, ils écoutent autant ce qu'on raconte.
Il y a un truc intéressant qui se passe, c'est surtout qu'on veut leur cacher. Donc, c'est encore plus intéressant, c'est surtout ça. Donc, en fait, je pense qu'il faut aussi sentir libre aussi de parler de sa propre histoire à son enfant. Ça peut permettre aussi que l'enfant comprenne pourquoi le foot, c'est si important pour papa, parce que lui, il a failli faire une carrière. Enfin, il y a des petites choses comme ça qui permettent aussi, après même à l'adulte, de prendre du recul. Mais est-ce que c'est à moi que je veux faire plaisir ou à mon enfant ?
Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut arrêter de leur mettre la pression ? Alors, on est en plein dedans, puisque la rentrée scolaire approche, sur l'école, sur la scolarité. Parce qu'on est d'accord, c'est quand même sain de vouloir que son enfant réussisse à l'école et des bonnes notes, plutôt que, je sais pas, il foute rien et que les résultats soient très mauvais. Donc, elle est où la limite, là, entre je te mets la pression, trop de pression, mais je veux être aussi un parent qui te guide et t'amène vers une bonne scolarité ?
C'est une question de cadre bienveillant, c'est-à-dire que oui, il y a des règles, oui, il y a certaines choses que j'aimerais que tu puisses faire. Après, si tu as des difficultés, il faut que tu oses me l'exprimer. Et souvent, c'est plutôt ça que les enfants ont du mal à faire. Dire j'ai une difficulté, au lieu d'attendre le fameux bulletin qui arrive, et là, les parents s'aperçoivent que là, il y a une grosse difficulté. Donc en fait, il faut essayer d'amener l'enfant à ce qu'il puisse vous verbaliser, j'ai tel ou tel problème, quelle solution on peut avoir. Et ça, c'est vraiment le conseil numéro un. Après, les parents, il faut aussi lâcher un peu la pression sur le statut d'élève, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne voient leur enfant que comme un élève. Donc il y a beaucoup de pression qui s'intéresse qu'à l'école, mais qu'aux notes à l'école.
Pas c'est quoi d'autre à part un élève à 8 ans ?
C'est un super bon camarade, parce que à cet âge-là, en plus, eux, ce qui est le plus important, c'est pas forcément les profs, les cours, c'est l'école, les copains, la récré, les liens sociaux. Souvent, un enfant, quand il a du mal à suivre, il y a souvent un problème relationnel avec les autres enfants. Et le conseil aussi aux adultes, c'est intéressez-vous à ce qui se passe aussi à l'école, pas forcément que sur le carnet de notes.
Ouais.
C'est important aussi.
Jimmy ?
D'une façon plus générale, on parle beaucoup d'éducation positive, d'éducation bienveillante. L'enfant est au cœur de l'éducation, mais au bout d'un moment, ça a peut-être ses limites. Parfois, on a envie de les punir. Alors, où on place le juste milieu ? Est-ce que la punition, c'est une mauvaise chose ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Ou est-ce que vraiment, on peut être bienveillant 24 heures sur 24 ? 7 jours sur 7.
Moi, je crois pas du tout.
Lorsqu'on a même parfois plusieurs enfants.
Non, c'est impossible. Alors, effectivement, la théorie de l'éducation positive, bienveillante, elle est super.
Tendre vers ça, c'est bien.
Oui, ouais. C'est un idéal à atteindre. Mais effectivement, et moi, je reçois beaucoup de parents qui lisent plein d'ouvrages, qui regardent plein de vidéos, et qui disent mais comment ils font 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour pas hausser la voix,
jamais punir, écoutez, tu es en souffrance là, tu fais pas
voilà.
Ça. C'est difficile, hein, quand
c'est
même.
Très difficile. Ouais. Alors,
on est même
après,
fatigué parfois.
La nouvelle vague, c'est de plus parler de punition, mais de conséquences.
Ouais.
Donc c'est un côté un
peu
moins.
Vous faites quoi chez vous, c'est conséquences ou punition ?
C'est, ça dépend de l'humeur aussi. Non, mais il faut être honnête. Parfois, on est fatigué.
Oui, bien sûr.
Parfois, on va leur... essayer en tout cas de les punir en fonction de la bêtise qu'ils ont faite. Par exemple, à table, ils font n'importe quoi. Bah, je leur dis, la prochaine fois, tu mangeras à table à côté. Et éviter de leur dire, tu vas, je vais prendre tes cartes Pokémon. Essayer d'être un peu juste dans la punition,
oui,
en fait.
Voilà, mais on parle la conséquence, justement, juste par rapport à ce que la bêtise qui est faite ou qui est perçue par l'adulte. Parce que c'est ce que je dis, un enfant qui ne fait pas de bêtises, c'est impossible, ça n'existe pas. Il faut juste relativiser sur la bêtise, quoi.
Vous dites, vous l'avez déjà un petit peu amorcé tout à l'heure, mais qu'il faut arrêter de penser que nos enfants donc, sont des adultes en miniature. Eux, ils ont le droit d'aller moins vite. C'est vrai qu'on les presse beaucoup, les enfants, le matin. C'est « allez, vite, vite, je dois aller moins travailler, l'école ». Alors, je ne dis pas qu'il faut être en retard à l'école, mais un enfant, ça ne va vraiment pas au même rythme qu'un adulte. Enfin, il y en a peut-être, mais en tout cas, laissons-les être des enfants et aller au rythme qui leur convient, c'est ça ?
Oui, alors
ça veut dire quoi dans la vraie vie, ça ?
Ils ont une temporalité qui est très différente de nous, donc forcément, c'est à nous, adultes, de nous organiser différemment. Si on sait qu'on a un enfant qui a du mal à se réveiller, c'est à nous d'optimiser le temps, par exemple.
On va le lever peut-être un peu plus tôt et ça lui laisse le temps d'émerger.
On va se lever un peu plus tôt en tant qu'adulte et puis on va préparer les choses. Alors, effectivement,
ça, quand il se lève, il n'y a plus qu'à faire quelques petits trucs. Et pas.
C'est aux adultes de s'adapter et pas le contraire. Et malheureusement, ce qui se passe plutôt dans la vie ordinaire, c'est plutôt les enfants qui s'adaptent aux adultes.
Et ça leur met la pression. Ça contribue à cette charge mentale.
Bah, déjà, quand on s'est fait disputer 10 fois sur le trajet de l'école, avant d'arriver à l'école, c'est quand même compliqué de se mettre dans l'ambiance de l'école.
Ouais.
Voilà, c'est des petites choses bêtes. Après, j'accable aucun parent. On peut avoir des moments où on est fatigué, où on a mal dormi, où bah oui, effectivement, on est en retard. Ouais. Mais c'est aussi un apprentissage de la vie d'être en retard.
Si c'est tous les jours, il faut se poser des questions, effectivement.
Ouais. Jimmy ?
Où se trouve la frontière entre stimulation et hyperstimulation ? Encore une fois, c'est la rentrée la semaine prochaine. On va les inscrire au judo, aux échecs, à la danse, à la guitare.
Parfois, les enfants aussi, on va essayer de... Bon, on culpabilise un peu peut-être les parents aujourd'hui, même si ce n'est pas notre souhait. Mais à la rentrée, ils ont envie de faire plein de trucs. Et puis finalement, parfois, au bout de 2 semaines, il n'y a plus rien qui leur plaît. Donc, comment on fait le tri là avant de les inscrire ?
On essaye de faire des petites sessions. Justement, on parle de cette thématique, de cette future année scolaire. Et qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire ? Il faut aider l'enfant à faire le tri, à faire des choix. Ce qui n'est pas toujours évident parce qu'il est plein d'entrain, comme vous l'avez dit, il est spontané, il a envie de découvrir plein de choses. Alors après, il faut, je sais qu'il y a l'inscription à l'année, que ça coûte de l'argent, donc il faut essayer de hiérarchiser les désirs. C'est surtout
ça. On se pose, on fait une petite réunion de famille, et on met tout sur une feuille et on
hiérarchise. Et ce qui est aussi possible de faire au niveau de l'organisation, parce qu'avoir multiplié les activités, ça demande aussi aux parents ou à d'autres adultes de s'organiser. Donc l'objectif, c'est de faire le point global sur l'agenda de tout le monde. Ça peut prendre un petit peu de temps, ça peut être plusieurs petites sessions de discussion. Mais c'est surtout, ok, t'as envie de faire...
Ce week-end, là, on est la veille de presque des inscriptions de la rentrée scolaire, en tout cas. C'est peut-être le moment de se poser tous à table et de regarder ça en famille.
Oui, et que ça puisse, c'est une notion de compromis, que ça puisse plaire, en tout cas, aller à tout le monde, au maximum.
Jimmy, une dernière question.
Donc, du coup, le maître mot, c'est encourager les enfants, les féliciter. Comment est-ce qu'on fait ? Parce que parfois, peut-être qu'on n'est pas adapté, nous, parents, quand on dit bravo, t'as bien dessiné. On est peut-être
Parlais de mes enfants un petit peu en préparant cette émission. Ils m'avaient dit, mais il faut en faire des caisses. Ça veut dire quoi ?
Je pense qu'il faut vraiment en faire des caisses sur les félicitations si c'est très important pour l'enfant. C'est-à-dire que c'est une notion de réussite, ça va l'encourager à continuer. Il va être fier de lui. Donc là, il va se dire, tiens, aussi mes parents sont fiers ou l'adulte est fier. Donc ça me donne envie de continuer, ça me motive à. Et je vaux quelque chose.
Et en faire des caisses, c'est mais bravo, t'es génial. Enfin,
limite l'applaudir. Alors tout dépend de l'âge, tout dépend de l'acte. Mais en tout cas, c'est de lui faire vraiment plaisir et de montrer même vous, au niveau de mimique faciale, votre corps, que c'est la fête, que c'est super chouette et que vous êtes super fiers de lui.
Merci beaucoup Aline Nathiel d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir bien sûr éclairé sur cette notion mal connue de charge mentale des enfants, ce qui est d'ailleurs le titre de votre livre aux éditions Larousse. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, focus sur les groupes sanguins. Savez-vous ce que les lettres A, B ou O signifient ? Qu'est-ce que cela change d'ailleurs que l'on soit d'un groupe ou de l'autre ? Que signifie être donneur ou receveur universel ? Eh bien Benjamin Lévesque, notre reporter universel, a été vous interroger sur ce sujet. On écoute son micro-trottoir.
Alors les groupes sanguins, il doit y en avoir 4, non ?
Peut-être qu'il y en aura une dizaine. Je ne sais pas qui peut donner, qui peut recevoir, mais je sais qu'il y a certains groupes sanguins qui peuvent donner du son et d'autres qui ne peuvent pas donner, mais qui peuvent juste recevoir.
Je sais qu'il y a AB, je ne sais pas si le O c'est O ou il y a la combinaison. Et après, tu as le plus, le positif ou le négatif. Les groupes sanguins et l'autre, c'est les facteurs RH.
Je sais qu'il y a le groupe A, il y a A négatif et A positif, il y a le groupe O. au négatif, au positif. C'est les seuls que je connais.
Par exemple, ma mère est A+, je le suis aussi. Par contre, mon père est O. Mais j'ai entendu pendant le Covid que les personnes qui avaient le groupe O, ils avaient moins tendance à développer les symptômes ou en tout cas à être touchés par le virus. Mais derrière, je ne sais pas tellement ce que ça change d'avoir un groupe A, d'avoir un groupe B. C'est quelque chose qui est génétique, je crois.
Tout ce que j'ai appris, c'est qu'il ne fallait pas mélanger les types sanguins.
Comme une voiture, par exemple, si on a une voiture diesel et qu'on se trompe et qu'on met de l'essence, du coup, ben, on est obligé de faire le nettoyage de tout le moteur. Moi, je pense que c'est pareil par rapport au groupe sanguin.
Bon, on va voir si c'est une histoire de moteur comme pour les voitures dans les groupes sanguins. Jimmy, vous allez tout nous dire donc, sur cette notion-là. Est-ce que ça signifie véritablement Mais ce qu'il faut savoir, d'abord, c'est ce que, comme l'explique l'établissement français du sang, même si la composition sanguine est la même pour tout le monde, on a quand même, finalement, dans les cellules du sang, une identité.
Oui, exactement, une carte d'identité qui leur est propre. On a tous des empreintes digitales qui sont différentes. Et bien, pour le sang, on a tout un tas de caractéristiques, de la même façon que vous êtes blonde, brune, grosse ou peu importe, eh bien, pour le sang, c'est exactement ça. Et vous avez à la surface des globules rouges des molécules qu'on appelle des antigènes et qui vont donc varier d'une personne à l'autre. Et ces différences d'antigènes vont faire les différents groupes sanguins. Sauf qu'il existe une multitude de systèmes liés à ces antigènes. Les plus connus, les plus vulgarisés, c'est ce qui permet de transfuser, c'est les groupes A, B, O, avec les rhésus, vous savez ce qui est le plus ou le moins.
D'accord. Alors justement, le système ABO, c'est quoi? Alors, je sais que c'est assez compliqué à expliquer, mais on va voir si vous arrivez à être clair.
Oui, alors ABO. En gros, c'est caractérisé par justement les antigènes dont je vous ai parlé. Pour donner un exemple très simple, quand vous êtes supporter du Paris Saint-Germain,
oh là là,
vous
ça
portez
en faute.
Un maillot de football du Paris Saint-Germain.
Ouais.
Donc, quand vous êtes du groupe A, vous avez des antigènes du groupe A. Quand vous êtes supporter de l'Olympique de Marseille, vous avez un maillot de l'Olympique de Marseille. Et donc, quand vous êtes
maillot
du groupe B, vous avez des antigènes du groupe B. Et surtout, vous n'aimez pas les A, donc vous n'aimez pas le Paris Saint-Germain.
Ah,
et donc, vous avez des
l'image.
Anticorps qui vont faire que vous serez que B. Si jamais vous êtes AB, à la fois l'OM et le Paris Saint-Germain,
c'est rare. Hein.
C'est rare. Mais du coup, ça veut dire que
AB,
vous avez des antigènes des deux et pas d'anticorps. Et puis, si jamais vous êtes O, c'est-à-dire que vous n'aimez pas le foot, et donc vous avez ni maillot de l'Olympique de Marseille, ni maillot du Paris Saint-Germain, donc vous avez des anticorps A et B qui fait que vous êtes O. Et donc, vous avez les différents groupes.
D'accord. Petite notion rapide de nous expliquer, donc finalement, c'est quoi les notions de donneur et receveur universel?
Alors, le donneur universel, alors, il y a un moyen mnémotechnique tout simple. Donner, donc si vous êtes du groupe O, vous n'avez pas d'antigène et donc vous pouvez donner à tout le monde. C'est le donneur universel. Alors, bien souvent, quand de toute façon, vous avez besoin d'une transfusion, on respecte les règles A,
on
B
va
et O.
Du A,
sauf
du A, du B,
quand
du
il y a
B,
un caractère
ouais.
d'urgence, vous avez un accident de la voie publique, vous saignez la rage, vous devez être transfusé en urgence et donc on va vous mettre du culot haut. Et évidemment, on respecte aussi le rhésus. Alors, le rhésus, ça vient d'un truc un peu particulier. Ça vient d'une espèce de macaque. Macaca
rhésus. Le mot rhésus, ah oui,
exactement.
D'accord.
Ça a permis de mettre en évidence ce système de groupe sanguin dans les années 40 et que ça désigne quant à lui la présence d'un autre antigène, un autre marqueur, qui est l'antigène D sur les globules rouges. Et en fonction de cet antigène, si vous l'avez, vous êtes plus ou moins. Et ça aussi, on doit le respecter dans les transfusions.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions. On a compris, je crois. Et puisqu'on parle de transfusion, un petit message de la plus haute importance. L'établissement français du sang, en cette rentrée, lance un appel. Les réserves, les stocks sont au plus bas. Entre la crise sanitaire, les vacances, les dons ont évidemment baissé. Mais les besoins des patients ne baissent pas. Donc allez-y, n'hésitez pas. Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondesang.efs.santé.fr ou sur l'appli Don de Sang.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h pour cette dernière séquence de l'émission. Comme tous les jours, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint. Catherine Blanc, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question de Claude. Alors Jimmy rigole déjà, je ne sais pas, je pense
mais
que...
Jimmy, il est sur son portable.
Vous avez fait une petite blague que je n'ai pas entendue peut-être?
Absolument non pas, non, je suis de bonne humeur, ça
d'accord.
vous échappe. Mais...
Ah mais c'est tellement étrange, c'est ça.
C'est tellement rare
voilà,
que...
Voilà, c'est ça, je suis surprise alors. Je vais vous lire la question aujourd'hui de Claude. Alors la question suivante. Ma femme a eu un cancer, donc Claude est un homme. Ma femme a eu un cancer il y a 2 ans. Depuis, je n'arrive plus à ressentir de désir sexuel. Je la sens fragile et de son côté, elle n'a pas l'air demandeuse. Comment l'expliquer? À quel moment pensez-vous que notre libido reviendra à la normale? Alors Catherine, c'est une très bonne question. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup... On parle rarement de sujets de cancer et de sexualité liés. Mais il y a pas mal de problématiques, même une fois qu'on a guéri d'un cancer. C'est normal, justement, après une telle maladie, qu'il y ait des problèmes de libido. C'est pas automatique, mais ça arrive souvent.
Alors oui, alors d'abord, il y a plusieurs questions dans la question. Hein. Il y a d'abord la question de deux personnes qui ont un problème de libido. La personne qui a eu un cancer, donc cette femme, ce qu'on peut tout à fait comprendre dès lors qu'on a flirté avec la mort, qu'on est peut-être avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc évidemment que ça peut relancer un désir pour affirmer la vie, mais on est plutôt dans un soin de soi, dans une idée aussi de dévastation ou de corps abîmé ou de corps,
oui, peut-être ou été opéré,
de corps amputé d'une partie de son corps éventuellement.
C'est pas précisé quel cancer, mais
voilà. Donc évidemment qu'on peut bien comprendre que quand on est en train de se réparer, toute l'énergie est psychique et physique,
c'est bien normal,
va dans cette direction. Pour ce qui est de son partenaire, de son mari, désirer quelqu'un, c'est désirer pour soi, bien sûr, mais c'est aussi désirer construire avec l'autre, faire des choses avec l'autre. Et puis, il faut sentir l'autre, évidemment, solide et partant pour l'aventure. Dès lors qu'elle est à la tristesse ou à la sécurité de son corps, évidemment qu'à ce moment-là, pénétrer une femme peut être perçue comme étant une agression qu'on lui fait subir. Et donc, évidemment, on ne peut pas facilement avoir envie de la pénétrer, parce que pour pénétrer le corps de l'autre, il faut être en tranquillité pour soi, mais en tranquillité qu'on ne va pas faire de mal à l'autre. Or, si l'autre est fragilisé, on est plutôt dans un soin maternant, donc extérieur, englobant l'autre, plutôt que dans un soin de conquête et de pénétration, inévitablement.
Jimmy ?
Il y a deux aspects un peu déroutants, c'est qu'il dit « elle n'a pas l'air demandeuse », mais on a l'impression qu'il ne lui a pas posé la question, il ne lui a pas demandé, au fait, qu'en est-il de ta libido ? Peut-être qu'elle pourra lui dire « non, écoute, moi ça va, mais c'est vrai que ça a été difficile ». Et puis peut-être qu'on peut recréer les circonstances favorables pour recréer de la libido. C'est vrai qu'on résume l'acte sexuel au fait d'être dans un lit et d'avoir un rapport sexuel, alors que finalement ça commence peut-être par le restaurant, une main sur l'épaule, une caresse, pour donner ensuite envie de recréer cette magie. Peut-être que finalement le problème est peut-être beaucoup plus simple que ce qu'on pense.
Oui, et comme vous le dites très justement, Jimmy, elle n'a pas l'air. C'est-à-dire que finalement, il y a un silence qui s'est fait dans ce couple. Parce qu'il y a la maladie qui s'est instaurée là, qu'elle a monopolisé toutes les attentions.
Ça n'a pas été le sujet, la sexualité, c'est ça, voilà. Pendant quelques temps, j'ai l'impression.
Et du coup, elle n'en a pas l'air. Elle ne se met pas, faudrait-il qu'elle en ait l'air. C'est-à-dire qu'il faudrait-il qu'elle se mette en scène, faudrait-il qu'elle dise « youhou ! J'ai envie de faire l'amour », les choses sont un peu plus compliquées que ça, pour elle certainement, mais en tout cas, peut-être qu'avant, elle n'était pas déjà comme ça, elle n'était déjà pas en train de mettre tout en scène pour montrer son désir. Mais lui est peut-être en difficulté. Et c'est parce qu'il est
ça, parce qu'il a peut-être peur, il la sent fragile aussi, il n'a pas envie de lui faire mal.
Parce qu'il a peur de lui dire peut-être « j'aurais envie de toi » et qu'elle ne soit pas capable, et que du coup, ça la mette en échec. Un nouvel échec, ou qu'il se sente rejeté. Donc du coup, lui-même évite le sujet parce qu'il n'est pas très à l'aise avec ce corps abîmé, selon aussi où il a été abîmé. C'est évidemment qu'il y a cancer et cancer. Tout, c'est toujours une idée de peur, de la maladie, de la mort, etc. Maintenant, il y a des cancers qui sont plus féminins, s'il s'agit de seins, s'il s'agit d'ovaires, s'il s'agit d'utérus. Vous pensez bien que ce n'est pas la même chose d'envisager d'aller toucher le corps sexué sur des zones sexuées si elles ont été elles-mêmes touchées par la maladie.
Le cancer, la maladie, c'est quelque chose qui est important dans un couple, qui va marquer le couple à jamais. Il y a beaucoup de couples qui ont des difficultés, vous en avez peut-être dans votre patientèle, beaucoup de couples même qui divorcent après une grande maladie qui a touché l'un ou l'autre.
Oui, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut pouvoir imaginer l'après-maladie, le pendant et l'après-maladie. Il y a toujours l'idée que la maladie guérie permettra de revenir au temps initial. Or, la vie est un mouvement qui ne cesse d'avancer dans une direction. Et la maladie, eh bien, va permettre, si on se soigne, de vivre d'autres choses, mais pas de revenir en arrière.
On ne sera pas la même personne.
Exactement. Et donc, les couples, parfois, sont dans la difficulté de cette acceptation de passage. Et résultat, il y en a un qui reste sur le bord de la route ou qui ne peut pas se confronter à cette nouvelle acceptation, ces nouveaux repères à trouver, sans les vivre automatiquement comme une dégringolade, mais comme une conquête. Comme on a été capable de se conquérir quand on s'est rencontrés, on peut tenter de se conquérir après la maladie. Mais évidemment, comme il y a deux personnes qui n'agissent pas ou ne cheminent pas à la même vitesse, parfois il est difficile de se rencontrer. Et dans le terme maladie, il y a mal à dire, il y a du mal à dire. Je crois que plus que jamais, il faut nommer les choses, et qui plus est sur le sujet de la sexualité, si on ne veut pas que la sexualité soit engloutie par la noirceur de la maladie qui laisse penser à une dangerosité et une mort imminente.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux. Comme toujours, voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à 15h pour un tour d'horizon des chirurgies post-amaigrissement. L'abdomen bien sûr, mais également les bras, les cuisses. Nous verrons comment en finir avec cette peau relâchée. Mais tout de suite, on retrouve Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour.
Bonjour Mélanie. Je m'avance peut-être un peu, mais je crois deviner que vous aimez bien la barbaque. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de trois végétariens de l'histoire. Léonard de Vinci, Pythagore et là, plus surprenant, Mike Tyson.
Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une très belle émission. On sera à l'écoute avec le docteur Jimmy Mohamed. Et vous aussi, surtout, je vous le conseille, restez sur Europe 1.